voix nue. Cette semaine, Odile Conseil rencontre Jean-Paul Rapneau. Ce soir, le style Rapneau du mouvement avant toute chose. Jean-Paul Rapneau, bonsoir.
Bonsoir.
On vous a laissé hier avec Citizen Kane et l'admiration formidable que vous portez à ce film. On vous retrouve aujourd'hui donc avec ce désir de cinéma et une envie d'une caméra devant laquelle vous passez tous les jours à Auxerre dans un magasin.
Oui, tous les jours on passe devant ce... Enfin, on passe parce que c'est moi et mes amis de classe. Je me souviens encore du photographe, il s'appelait Coquenio. Bon, alors, la boutique de Monsieur Coquenio avait dans sa vitrine une caméra Paillard Bolex, une caméra 16 mm. Et pratiquement toute l'année, je passais devant cette vitrine et je rêvais de cette caméra. Et j'en parlais en rentrant le soir à la maison.
Et vos parents vous promettent de l'acheter à une condition?
Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, c'est une très bonne manière de me motiver. Une fois encore, je crois, c'est plutôt ma mère qui a l'idée plutôt que mon père et qui me dit si tu as ton bac. Là, on parle du premier bac. On t'offrira cette caméra. Ah, alors, bon, évidemment, j'ai eu le bac direct. Et le soir même, le soir des résultats, mes parents arrivent dans ma chambre, portant dans les mains une boîte de carton rouge dans laquelle il y a cette caméra Polex. Donc je suis fou de joie, il y a beaucoup d'émotions. Je fais je ne sais quelle promesse encore, oui, je vous jure. Je n'avais pas fait attention l'année dernière, mais là maintenant, oui. Mais par contre, après mes parents s'en vont, et je reste là avec cette caméra, je la regarde un peu, mais surtout le soir même, le paravent qui est ici dans mon bureau à Paris, ce paravent il était dans ma chambre à l'époque, parce que il ne plaisait plus à ma mère qui finalement l'avait relégué le paravent dans ma chambre. Donc j'installe une petite table, je la mets derrière le paravent pour être tranquille, pour être comme dans une cellule, et une heure après je commence à écrire le scénario de mon premier film. C'est assez drôle parce que moi qui mets quelques années entre mes longs métrages, plusieurs années, 2 ans, 3 ans, quelquefois 4, que je me demande s'il n'y a pas eu 5 aussi. Là, on peut dire que ça a duré une demi-heure, hein, entre la caméra et les débuts du scénario, en une demi-heure. On était déjà sur le truc, le scénario était cru pratiquement, non pas le soir même, mais le lendemain, la vie d'un lycéen, donc très simple, comme je connais tout par cœur. Et on commence à tourner, je crois, le film dont je joue le rôle principal. Donc ça remplit tous mes espoirs. Je joue, je dirige. Mais toute l'année qui suit, c'est-à-dire l'année de terminale, ça s'appelait l'année de philo à l'époque, et ben toute l'année qui suit, je tourne le film. Je fais des raccords, ça ne va jamais. Je monte. C'est m'occupe entièrement. Et du coup, la ruse de mes parents tient pour une année, le premier bac, mais il ne tient pas 2 ans. Donc je loupe le bac de terminale. Je dois redoubler. L'atmosphère se tend dans la famille. Mais après, en tout cas...
Après, donc quand vous avez finalement votre deuxième bac,
oui,
vous allez à Paris pour faire du droit parce que votre père veut,
oui,
que vous ayez un vrai métier. Il ne s'agissait pas d'être,
oui,
comédien ou cinéaste ou quoi que ce soit.
Oui, c'est ça.
Mais alors, là encore, vous avez une année qui n'est pas couronnée de succès.
Quand je fais du droit à Paris, ah oui, non, ça ne me plaît pas du tout. Mais l'idée, c'est ça, c'est le cinéma, bah d'accord, on t'a offert une caméra, alors tu peux toujours en faire le dimanche, comme tu fais d'ailleurs. Mais il faut quand même un métier, hein. Bon, faire le droit, bon, ça a l'air de mener à tout. Il n'est pas question de cinéma à ce moment-là. On est toujours dans le non-dit, enfin dans la ruse, dans le louvoiement entre moi et mes parents. Je crois d'ailleurs, j'ai été rassuré l'autre jour, en lisant que notre ami Bertrand Tavernier, enfin le grand Bertrand, l'homme de Lyon était monté à Paris pour faire du droit. Donc il a commencé à faire du droit et il a lâché très vite pour devenir, je crois, attaché de presse. Mais enfin le droit, c'est pas tellement le droit, c'est le droit romain. C'est-à-dire, il insistait beaucoup à la fac de droit dans cette première année sur le droit romain. Bon, j'avais l'impression de devenir fou. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et mine de rien, je fais quand même ce droit, mais à la fin de l'année, il y a quand même un examen. Et évidemment, comme j'ai passé mon temps à tourner un autre film pendant cette année de droit, en 16 mm, qui s'appelait La maison sur la place, qui a eu d'ailleurs un petit succès dans un circuit de ciné-club à l'époque.
C'était un moyen-métrage, un court-métrage?
Moyen-métrage, oui, ça faisait 40 minutes, oui. Et oui, joué par des amis parisiens. Hein.
Et vous n'avez donc pas eu votre examen de droit de première année?
Oui, non plus, non, oui.
Et
alors, ça commence à faire beaucoup d'échecs.
Vous n'aviez pas pensé à faire l'IDEC?
Si, bien sûr, mais il était maintenant trop tard, parce qu'il y avait trop de temps perdu. Quand je me renseigne pour rendre, je dis, bon, peut-être je peux faire l'IDEC, ça rassurera. Enfin, bon, bref, je peux faire l'IDEC, je me renseigne, on me dit, ben oui, alors très bien, mais il faut faire quand même une année préparatoire. Alors je dis, non, c'est pas possible. Ah non, mais non, une année préparatoire, non, ça peut être... Alors on est à 4 années de perdu en tout. Donc, à l'époque, il y avait une autre manière, enfin à l'époque et toujours, il y avait une autre manière d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le métier du cinéma, c'est de l'assistanat, qui à l'époque d'ailleurs était codifié. Donc je deviens effectivement pour plusieurs films stagiaire, puis assistant, second assistant de Raymond Bernard, l'homme qui a fait Les Croix de Poix.
Et La Belle de Cadix.
Et La Belle de Cadix, où je joue le rôle d'un coiffeur. Mais arrive une obligation qui n'existe plus, mais qui était bien réelle à l'époque, il faut faire son service militaire, donc je pars pour le service militaire. Et c'est là-bas, au service militaire, à Vernon, que je rencontre les premiers garçons de l'IDEC, ceux qui ont fait l'IDEC, ceux que j'aurais dû rencontrer quelques années avant, mais qui, eux, viennent de finir leurs études à l'IDEC et ben, font leur service militaire. Et là, je rencontre un cavalier qui est mon compagnon de chambrée, comme on dit dans les pièces de Courteline. Et donc, grâce à lui, peut-être parce que on devient amis, très, très bons amis même. Et pendant les permissions, enfin, mais en dehors des permissions aussi, quand il est à Paris, il a institué chez lui, rue Gay-Lussac, où il vit, les mardis de la rue Gay-Lussac, où il tient une porte ouverte pour tous les amis qui tournent autour de la planète cinéma. Et moi, j'y viens donc, et je rencontre là, effectivement, les garçons que j'aurais dû rencontrer quelques années plus tôt. Et notamment, un jour arrive la star de cette promotion de l'IDEC, Louis Malle. Je dis la star parce qu'il vient d'obtenir, alors qu'il sort à peine de l'école, il vient d'obtenir la Palme d'Or à Cannes avec le Monde du Silence, qu'il a tourné avec Cousteau.
C'est en 1956, hein?
Là, on est en 56, oui. Donc, cette même année, il met en chantier Ascenseur pour l'échafaud.
Où on vous aperçoit aussi faire de la figuration.
Oui, plus que la figuration, sorte de petit rôle. J'essaye de montrer par mes regards sur Jeanne Moreau que j'aurais volontiers entamé dans le film une aventure avec elle. Voilà, je suis dans cette ambiance-là avec ces gens-là, avec cette atmosphère qui règne dans ces années, la fin des années 50 et 1960, le début. C'est-à-dire que, au fond, la nouvelle vague est en route. Et d'abord avec Louis et Claude Chabrol, qui, la même année, tourne Le Beau Serge, son premier film. Là, c'est donc l'ascenseur pour l'échafaud. Et après l'ascenseur, il tourne dans la même année Les Amants. Et moi, la même année, je tourne, alors moi, non pas un long-métrage, mais un court-métrage. J'en ai fait quelques autres, mais en tout cas, celui-là s'appelle Chronique provinciale. Ça se passe en province, dans une petite ville. Et évidemment, je vais le tourner à Auxerre. J'ai écrit le scénario avec Cavalier, et le film obtient je ne sais quelle récompense au Festival de Tours, non, Festival du court-métrage. Bon, tout le monde tourne un court-métrage dans la fin des années 50, aussi bien Truffaut que Godard ou d'autres. Rivette tournant le coup du berger dans l'appartement de Claude Chabrol. Et puis les bandes se forment, quoi. Il y a effectivement cette bande venue des Cahiers du cinéma, enfin qui s'est fédérée autour des Cahiers du cinéma.
Donc Truffaut, Godard. Non,
Truffaut, Godard, Chabrol, oui, voilà. Et Romère, très vite. Et puis, il y a les indépendants. Moi, je suis un indépendant, mais il y a aussi là, une bande qui se fédère plutôt autour de la revue Positif. Dans les indépendants, il y a Claude Sauté. Enfin, bon, tout le cinéma qui est en marche, là, en route, ce mouvement de la nouvelle vague est là. Donc, et chaque semaine, on peut dire, à partir de 60, sort un nouveau premier film.
À bout de souffle, c'est 1960.
Oui.
La saga Douanel, ça commence en 1959. À ce moment-là, vous n'avez pas encore fait votre premier film. Et Claude Chabrol vous propose un scénario, en vous proposant de le produire et que vous en soyez le réalisateur.
Oui, c'est ça. Oui. Donc, il est devenu producteur, lui. Comme Louis-Mann, d'ailleurs. Et ça sera comme ça aussi avec Truffaut. Il commence à tourner, mais il devient aussi producteur. Donc, il me propose un scénario écrit par une comédienne, Geneviève Cluny, donc, et une histoire d'amour à Paris. Et je lis, et je dis, ben oui, mais c'est pas du tout comme ça que j'envisage un premier film. Moi, j'ai déjà un peu une idée quand même. Je veux en tout cas pas tourner un premier film à Paris. Je veux que ce soit une histoire en province. J'explique pourquoi. Donc, je refuse. Non, je peux pas le tourner. Bon, d'accord. Alors, il le propose à ce moment-là, d'ailleurs, à son assistant, Philippe de Broca. Et ça sera le premier film de Philippe de Broca qui s'est appelé Les Jeux de l'amour. Voilà. Mais parallèlement, avant que Broca fasse le film, voilà que Godard apprend que j'ai refusé le scénario que me propose Chabrol. Il m'appelle, il me dit, mais enfin, alors il paraît que vous avez refusé. Ben, je dis oui, c'est pas bon. Ben, on peut changer. Alors voyons-nous. Alors, je me souviens encore de ce café pris avec Godard au Select, boulevard du Montparnasse. Et il me dit, mais alors, tout le monde essaye de tourner un premier film, et là, vous avez la possibilité. En plus, c'est produit. Claude est d'accord. Je dis, ben oui, mais enfin, le scénario. Mais non, mais alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le tourne tous les deux. Voilà. Et ça sera notre premier film à tous les deux. Ça sera un film de Godard et Rapneau. C'est une sorte de fou, on n'y arrivera pas, on va se disputer. Si, regardez. Alors, regardez. Et il me cite un film de. Je crois que c'est le premier film de Michel Deville, oui, c'est ça, qu'il a tourné, alors, avec qui?
Avec Charles Gérard, je crois.
Ah oui, Charles Gérard, voilà, c'est ça. Un film de Michel Deville et Charles Gérard.
Qui s'appelle Une balle dans le canon.
Ah, vous
ça
avez
n'a pas marqué l'histoire du cinéma. Hein.
Non, mais vous avez retrouvé ça. Une balle dans le canon, oui. C'était l'année précédente, pratiquement. Enfin, finalement, non, je dis. Ça se terminera mal, ne faisons pas une chose pareille. Mais ça me touche quand je repense à Godard tel qu'il était à l'époque avec son fameux imperméable vert qu'il ne quittait jamais, qu'il neige ou qu'il vente ou qu'il fasse beau, imperméable vert. Et la suite de ma rencontre avec Louis Malle, c'est que au lieu d'être son assistant, c'est qu'il m'a proposé d'être le scénariste de l'adaptation qu'il voulait faire de Zazie dans le métro, le livre de Raymond Queneau. Donc on a fait cela. Ensuite, j'ai écrit avec lui un film pour Brigitte Bardot qui s'est appelé Vie privée. Et puis voilà que, alors que les autres commençaient à tourner, moi j'étais plutôt scénariste. Voilà.
Vous êtes le Jean-Paul qui racontait des histoires finalement.
Oui, j'ai mis à profit ce talent que j'avais quand j'avais 5 ans ou 7 ans. Donc je raconte des histoires, mais donc je suis scénariste, c'est vrai qu'il n'y en avait pas tellement, il y avait peu de garçons de cette génération qui voulaient être exercer ce métier de scénariste, qui était très décrié par ceux qui ont créé la nouvelle vague. On disait que les films étaient trop écrits, enfin j'ai pas jamais trop cru à cette théorie-là. Et moi-même, donc, j'ai aidé mes amis à écrire leurs histoires. Louis Malle, comme j'ai dit, mais aussi Philippe de Broca au moment de L'Homme de Rio, et Alain Cavalier pour Le Combat dans l'île, son premier film, et d'autres choses encore. Et une année en Yougoslavie pour travailler sur le scénario de Marco Polo, ou L'Échiquier de Dieu. Bon, alors, mais parallèlement, j'ai en tête vraiment d'écrire une histoire qui se passerait dans une maison en Bretagne, enfin non loin de la mer. Et j'avais déjà d'ailleurs le décor en tête, puisque j'avais trouvé une maison qui me plaisait énormément, et inventé une histoire qui se passerait là-bas. Et à travers des discussions avec Alain Cavalier, toujours lui, qui m'a vraiment accompagné toute ma vie, et qui a suggéré ce qui se passerait dans cette maison aurait à voir avec la guerre. J'ai lutté contre l'idée de faire un film de plus sur la résistance, mais en fait, j'ai fini par me passionner pour notre histoire, voir qu'une comédie était possible, c'est ça, surtout. C'est que quand j'ai commencé à l'écrire, après en avoir parlé longuement avec Alain, quelques temps après, je l'ai appelé, il me dit « Alors, comment ça se passe ? Ça avance ?»« Ben oui, pas mal, mais il y a quelque chose qui est quand même curieux, c'est que tout ce que j'écris, toutes les scènes qui viennent me font rire. » Ben, alors, il me dit, mais je m'inquiète, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on avait évoqué l'histoire. Ben oui, mais si c'est comme ça que ça vient, va dans ton sens, c'est le tien. En fait, j'ai inventé la comédie en la faisant. Comme M. Jourdain fait de la prose, sans le savoir. Donc, voilà, c'est ce premier film, La Vie qu'on a tourné, donc, mais alors en 65. Donc,
et finalement, pas en Bretagne, donc, mais en Normandie.
Oui, parce que Alain avait suggéré donc une histoire ayant à voir avec la guerre mondiale, la résistance. Et du coup, moi, quand j'ai écrit, j'ai dit, mais au fond, autant prendre un acte, quelque chose qui est vraiment dans la mémoire de tous, autant que ce soit pendant le débarquement en Normandie. Voilà. Donc, il a fallu tourner en Normandie. C'est donc en Normandie qu'on a tourné une partie du film.
Et alors, voilà. Catherine Deneuve y est une toute jeune actrice. Aux côtés de Philippe Noiret qui joue son mari, aux côtés de Pierre Brasseur qui joue son père. Alors, Pierre Brasseur qui s'appelle Dimanche dans le film, mais dont le nom de résistant est Vendredi. Parce que oui. Quand même, c'est votre esprit de comédie oui. Qui se retrouve là. Mais en fait, c'est pas à Catherine Deneuve que vous pensiez initialement pour tenir ce rôle.
Ah, oui, il se trouve, oui, que quand le film a été écrit et qu'il avait trouvé vraiment ce ton qu'il a, et surtout la rapidité du jeu que ça allait exiger de l'actrice principale. Le personnage de Marie était le moteur du film. Il y avait une fille que tout le monde avait découverte, enfin depuis un moment déjà, mais qui avait joué dans L'Homme de Rio, ce film que j'avais écrit avec Philippe. Et donc
Françoise d'Orléac, donc.
J'ai pensé à Françoise d'Orléac, voilà. Alors j'ai déjà raconté qu'effectivement j'ai eu du mal à la joindre, mais finalement qu'un jour elle avait accepté de venir déjeuner. J'ai dit il faut quand même que je vous parle. Elle avait lu le scénario qui lui plaisait, mais enfin elle toujours très occupée, toujours assez nerveuse, exquise. Enfin tout le monde était fou d'elle, hein. Moi le premier bien sûr. Alors donc elle est venue pour ce déjeuner, mais elle n'a pas pu rester parce qu'elle était en retard. Donc elle est venue pour rien. Et sauf qu'elle m'a suggéré que le personnage soit pieds nus dans le film. Elle était venue pratiquement pour ça, pour dire « mais je veux bien faire le film à condition qu'il soit pieds nus ». Alors « ben oui, très bien, mais comme vous voulez ». Oui, parce que pour moi, le personnage, c'est la liberté, c'est un oiseau, c'était... Et puis elle repart, et elle quitte le restaurant, ne déjeune pas, et je crois que je l'ai jamais revue. Mais j'ai jamais revu parce que quelques temps après, elle m'a expliqué non qu'elle pourrait pas faire le film parce que pour tourner le film de Polanski, cul de sac. Bon, mais ma productrice Nicole Stéphane me dit très bonne nouvelle parce que au fond, moi j'ai jamais pensé que ça pourrait être elle. Je pense plutôt que ça devrait être sa sœur, c'est-à-dire Catherine Deneuve. Et Catherine Deneuve, c'est vrai, venait l'année précédente, je crois. Oui, l'année précédente. De triompher dans Les Parapets de Cherbourg.
Mm-hmm. Palme d'Or. De Jacques Demy.
Palme d'Or du Festival de Cannes. Donc j'ai rencontré, évidemment, je suis aussi séduit par elle que par sa sœur. Mais, enfin, il faut rester calme face à ces deux engins.
Catherine Deneuve insuffle, en fait, un rythme très vif, très alerte. Avec sa façon justement de... Elle court, elle pédale, elle est toujours en mouvement, elle parle très vite, elle a cette réputation, elle vous dit d'ailleurs apparemment, mais vous savez, j'ai un débit très rapide, je parle comme une mitraillette. Oui. Est-ce que c'est ça qui finalement donne aussi tout son rythme au film et qui fait qu'on vous associe au rythme et à un tempo assez rapide dans tous vos films? Est-ce que ça vient de là?
Ben, ça participe. Enfin... physiquement, quand je tourne, et que je vois là une scène, je me balance, non pas comme un métronome, mais vous voyez, moi-même, en vous parlant, là, si je pense à un tournage, je me balance. Parce que je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui bat dans un film, dans une scène. Il y a une basse continue, il y a quelque chose qui... Et donc, je n'aime pas trop que les comédiens traînent sur les répliques. Et quand Catherine Deneuve, la première fois que j'ai rencontré, enfin, quand je lui ai dit, mais est-ce que ça vous intéresserait de faire le film, puisque votre sœur ne peut pas, bien sûr, oui, mais vous m'en voudrez pas trop aussi, parce que j'ai un gros défaut, c'est que je parle peut-être trop vite. Alors, je dis, mais c'est parfait, c'est très bien. Et elle m'explique que quand elles étaient quatre filles, que quand elles étaient à table, donc, c'était à qui parlerait la première. Donc, celle qui avait des choses à raconter, il fallait qu'elle parle vite, parce que sinon, les autres lui couperaient la parole trop tôt. Donc, ça les a, aussi bien Françoise Orléac qu'elle, amenées à parler dans ce rythme-là. Mais je dirais que, oui, ça, un des charmes du film, c'est quand même cela, de la voir, elle, pédaler avec son petit vélo dans les champs de blé, alors que la mer est au loin et que sur cette mer arrivera quelques jours plus tard la flotte anglo-américaine.
La musique de Michel Legrand aussi, évidemment, contribue à ce rythme que vous voulez donner
oui.
au film.
Moi, j'avais hésité à appeler Michel Legrand une fois que le film a été terminé. On me dit, mais oui, mais le film, il y a un rythme fou. Si on parle de rythme, il y a un homme qui sait cela par cœur, c'est Michel Legrand, qui est en tout cas un des vrais musiciens de jazz français. Et lui, voyant la rapidité du film, a décidé, lui, de jouer non pas la vitesse, mais le sentiment. Donc il voulait que la musique ralentisse les courses et exprime les cœurs, disait-il.
Alors, le film a été un succès.
Oui.
1 600 000 spectateurs ou quelque chose comme ça, au moment de sa sortie.
800 000.
Oui. 1 800 000. Bravo.
Oui, c'était beaucoup pour l'époque, oui. Enfin, pour un premier film. Et le prix Louis de Luc.
Et le prix Louis de Luc, qui n'était pas encore le prix Louis de Luc du premier film. C'était le prix Louis de Luc
général. Oui,
parce que depuis, il y a un prix Louis de Luc du premier film, hein, je crois.
Ah, peut-être.
Il y en a deux qui sont décernés, effectivement, chaque année. Et c'est un film en noir et blanc.
Oui.
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire un film en noir et blanc?
Ah oui, parce que, en vérité, comme beaucoup, pour Claude Chabrol, pour Louis Malle et d'autres, c'est que ce film, il a fallu que je le produise, ce premier film. Parce que quand j'ai fait le tour des producteurs parisiens avec mon scénario, tous avaient me dit, oh là là, on peut pas plaisanter sur des choses aussi graves. Donc ils ont eu peur du film. Ils ont eu peur du film. Et à un moment donné, un homme que j'aime beaucoup, qui avait épousé une de mes sœurs, m'a dit, mais c'est pas compliqué, on n'a qu'à créer une maison de production, on va se renseigner. Et c'est ce qu'on a fait, et j'ai créé une maison de production. Alors par contre, effectivement, j'avais le nez sur les comptes. Moi, je voyais vraiment le film à l'atmosphère printanière. Quand j'écrivais le film au départ, je disais, voilà, c'est le printemps, c'est merveilleux, il y a des fleurs, c'est la Normandie. Et on raconte toute une histoire, et puis au bout de 20 minutes, brusquement, on voit un tank allemand qui traverse le champ au fond. Et on comprend à ce moment-là qu'on est pendant la guerre. Et donc, vous voyez, tout ce début charmant, avant le tank, en couleur. Mais la couleur, à l'époque, coûtait très cher, plus cher qu'il n'était prévu dans le budget. Donc, j'ai décidé de le faire en noir et blanc. Et grâce à Pierre Lhomme, grand chef opérateur, qui a fait plusieurs de mes films, et surtout Cyrano, où il a été couvert d'honneur avec ce film. Et grâce à Pierre Lhomme, ce noir et blanc est divin. Et tant mieux que le film soit en noir et blanc, parce que d'une part, c'est l'époque, c'est 44, et la couleur n'existait pas. Et puis le travail de Pierre, d'habitude, on se dit toujours, quand on tourne un plan, d'où vient le soleil? D'où vient le soleil? Où est le soleil? Et là, c'est le film aux 1000 soleils, parce que je me disais, mais c'est un film en noir, sans doute, mais aussi en blanc. Il faut qu'il y ait plus de blanc dans l'image que de noir. Bon, bref, c'est les théories de l'époque qu'on fait entre deux apéritifs.
Et peu avant la sortie du film, votre père meurt.
Ah, alors, c'est toute une autre histoire. Oui, peut-être on va essayer de la faire courte. Une fois n'est pas coutume, c'est que mon beau-frère, donc, puis ensuite mon frère, enfin, il y a eu une petite alliance familiale pour créer une maison de production, pour faire le film, sauf qu'il y en avait un qui était absolument contre, c'était mon père. D'ailleurs, on ne lui avait pas dit, mais à un moment donné, quand il a fallu fonder la société, il a bien fallu qu'on aille lui demander quand même une participation. Enfin, il, c'est-à-dire mon beau-frère, moi, j'aurais pas osé, à lui-même. Mais en fait, et mon père l'a très mal pris, lui a acheté un chèque à travers la pièce en disant des mots qui ne m'auraient pas plu si j'avais été là. Voilà, mais en fait, tout ça, c'était quand même pour lui prouver. Hein, au fond, il y a toujours de ça, quand même. Il a toujours été contre cette idée que je fasse du cinéma. Il m'appelait parfois le saltimbanque. Enfin, vous voyez le genre, quand même. Et donc, c'était quand même fait pour lui prouver qu'il aurait eu raison de me soutenir, parce que... Et voilà que quand on a préparé le film, dans les derniers mois, les dernières semaines, eh ben voilà qu'il est mort. Donc, il n'a pas vu le film.
Voilà. Il y a cette très belle phrase de votre mère.
Ah, tout à fait. Oui, ben c'était pendant cet hiver-là, avant le tournage qui a eu lieu en 1965 au printemps, c'est que je suis à Paris, on m'appelle un matin, faut que tu rentres très vite, faut que tu rentres, viens vite. Enfin bon, je sens qu'il y a de l'affolement, et dès que j'arrive dans la maison, je comprends avoir la tête des gens en bas qu'il y a eu un drame, enfin que mon père en fait est mort. Bon, et ma mère est en haut, et on lui dit, voilà, Jean-Paul est là, Jean-Paul arrive. Alors, elle apparaît en haut de l'escalier, pendant que je monte, et puis, me voyant, là, elle me dit, là, j'en ris, mais ça me touche énormément, elle dit, il ne verra jamais ton succès.
Merci Jean-Paul Rapneau, c'était le premier de vos films et le premier succès. À demain pour de nouvelles aventures.
D'accord.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Odile Conseil avec Jean-Paul Rapneau. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.